bonsoir à tous et merci de votre fidélité à VOA Afrique et bienvenue à cette émission spéciale, émission consacrée à la situation au Burundi. Au micro, Bagassi Koura, avec moi ici, Timothée Donamaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Bagassi.
Voilà, et pour participer à l'émission, composez le 001-202-619-31-40. Je dis bien 001-202-619-31-40, car nous voulons savoir ce que vous pensez de cette situation politique au Burundi. Ce mardi, la situation donc au Burundi a franchi une nouvelle étape avec cette décision qui était tant attendue de la Cour constitutionnelle. Et sans surprise, cette Cour constitutionnelle burundaise a validé la candidature controversée du chef de l'État Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Dans un arrêt rendu donc ce matin, la Cour a estimé que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi. Alors Tim, avec ce feu vert de la Cour constitutionnelle, tout montre que Pierre Nkurunziza est bien déterminé à aller jusqu'au bout.
Tout à fait, Bagassi. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle reprend un peu les arguments du camp présidentiel et qui avait dit que c'est vrai que le président Nkurunziza a déjà exercé 2 mandats, mais que le premier mandat, il avait été élu par le Parlement.
Pas un suffrage direct.
Voilà. Alors que la Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel. Donc, eux, ils pensent, le camp présidentiel pense que M. Nkurunziza a encore droit à un scrutin, à une participation au suffrage universel dans la course à la présidence.
Donc, en clair, le fait d'avoir été élu par le Parlement ne fait pas partie des 2 mandats autorisés par la Constitution, c'est ce qu'ils veulent dire.
Voilà, selon eux, cela ne s'inscrit pas dans le cadre de la Constitution. Mais en face, les adversaires disent que les accords d'Arusha qui ont permis de ramener la paix au Burundi, eh bien, ces accords d'Arusha ont dit que il ne sera pas permis à quiconque d'exercer plus de 2 mandats à la tête du pays. Donc, c'est la position défendue par les adversaires du président.
Voilà, on nous signale que nous avons notre premier auditeur qui est en ligne de Bamako, un certain Oumu Savadogo. Allô?
Allô?
Oui, bonsoir.
Allô?
Oui, c'est bien, Monsieur Savadogo, j'ai pas bien entendu votre prénom.
C'est Karim Savadogo.
Karim Savadogo, alors, quelle est votre opinion sur ce qui se passe au Burundi?
Sincèrement, ce qui se passe au Burundi, c'est vraiment désolant, c'est déplorable. Un président, un rebelle, qui est venu au pouvoir, pas de consensus, et puis qui refuse de céder au consensus signé à Arusha en Tanzanie. Ça, on voit qu'il ne lutte pas, c'est pas pour le peuple. Il ne lutte pas pour le peuple, mais pour leur propre tube digestif.
D'accord. Merci,
voilà.
merci pour votre point de vue. C'était Karim Savadogo qui nous appelait donc de Bamako au Mali. Alors, Tim, on parle beaucoup de ces accords de paix d'Arusha qui avaient ouvert la voie à la fin d'une longue et sanglante guerre civile de 93 à 2006 au Burundi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ces accords d'Arusha?
Alors, ces accords d'Arusha, il faut dire que le Burundi est passé par une période intense de guerre, de guerre civile avec toutes sortes de groupes qui s'affrontaient, et la médiation internationale a réussi à réunir tous ces groupes à Arusha en Tanzanie pour que ces personnalités s'entendent sur une base consensuelle de gestion du pays. Et c'est ainsi que ces accords d'Arusha ont été signés. Et ces accords prévoyaient notamment la limitation de mandat, une façon justement de résoudre ce problème constant dans beaucoup de pays, à savoir l'alternance démocratique à la tête du pays. Et c'est pour éviter que certains recourent encore aux armes comme moyen de conquête du pouvoir, que cette limitation des mandats a été introduite dans ces accords d'Arusha que les partis burundais, toutes les parties burundaises ont signé, et c'est ainsi qu'on a amorcé la transition démocratique au Burundi.
Voilà. Et nous avons Francis Akito qui est en ligne de Kinshasa. Bonsoir Francis. Oui, ça va très bien. Merci de nous contacter. Quelle est votre opinion sur cette situation au Burundi?
Mais écoutez, je suis très, très concerné d'abord. Je suis la mort du peuple burundais qui s'est décidé de braver la peur. Je me dis, vous savez, lorsque on fait 10 ans sur une même place, on est deux fois essoufflé et on risque de tourner en rond dans ce qu'on pense. Voilà pourquoi on a estimé les gens qui ont parlé de mandat.
Je crois qu'on a, quelques soucis avec Francis Akito, qui était en ligne de Kinshasa. Alors, Tim, voici ce que dit l'article 96 de la Constitution, qui prévoit que le chef de l'État, je cite, « élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois ». Voilà. C'est sur cet article-là que s'appuie le gouvernement burundais pour dire que le premier mandat n'était pas au suffrage universel.
Tout à fait, Bagassi. Et du côté du gouvernement, on explique aussi qu'il y a eu, il y a bien eu l'accord, les accords de paix d'Arusha, mais que le pays a passé ce cap-là pour se donner une constitution qui est désormais la loi fondamentale dans le pays et qui doit régir le pays. Donc, selon eux, c'est ce qui est écrit dans la Constitution qui doit maintenant prévaloir et non ce que prévoient les accords d'Arusha qui ont précédé la Constitution.
Et pour eux, la Constitution est bien au-dessus des accords d'Arusha.
Ils disent que la Constitution est intervenue après les accords d'Arusha et que les Burundais en toute liberté se sont donné cette Constitution. Donc c'est elle qui doit maintenant primer.
Ouais. Alors nous avons Mohamed Douane qui est à Ségou au Mali. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, moi je pense que l'opposition, il ne faut pas qu'il envoie les jeunes se faire. Mais moi je pense que vraiment la jeunesse, souvent c'est la jeunesse qui est perdante dans ces cas-là. Moi je pense que les présents violent la constitution. Mais il faut qu'ils sensibilisent les jeunes de ne pas aller voter pour les présents. Sinon, on va penser ça, on a vu ça dans beaucoup de pays. Au Congo, c'était le même cas, on tue les jeunes. Moi, je pense que l'opposition, vraiment, parce qu'on ne voit pas comment dire, défendre ces jeunes-là. Vraiment, nous, les jeunes, on a assez souffert. Donc, il faut qu'ils éduquent là, pour les jeunes. De ne pas aller voter que les présidents, ils violent la Constitution. Qu'on éduque, qu'on informe. Au moins, que l'opposition se réunisse contre les présidents. Moi, je pense que si 80% de la population décide de ne pas voter pour les présidents, il ne pourra pas passer. Donc, vraiment, que l'opposition, il se réunisse, qu'il sensibilise. Vraiment, le président ne peut pas se faire élire tout seul. Donc, il y aura une élection. Donc, il faut que vraiment les gens votent contre lui. Donc, même s'il modifie la constitution, même si qu'il se présente 100 fois, si on vote contre lui, il ne faut pas se présenter encore.
D'accord,
moi,
merci.
Moi, je pense que l'opposition, voilà, il faut qu'il se réunisse. Vraiment, sensibiliser les gens à voter contre. Vraiment, c'est la voix des jeunes qui compte, moi, je pense.
Voilà. Mohamed, merci de nous avoir appelés. On a bien compris votre point de vue pour vous. Au lieu de manifester, il faut attendre calmement les élections et voter contre le président si on ne veut pas qu'il ait un troisième mandat.
Et c'est ce qui se dit d'ailleurs au sein du camp présidentiel. On dit qu'il faut laisser la latitude aux Burundais de choisir entre le président sortant et d'autres candidats qui vont se manifester au lieu de chercher à l'empêcher de briguer un autre mandat. Donc, du côté du camp présidentiel, on dit que tout doit se décider dans les urnes, par les urnes et non par la rue.
Voilà, nous avons ici Abraham Luakabwanga qui appelle de la Virginie ici aux États-Unis. Bonsoir Abraham.
Oui, bonsoir Timothée.
Oui.
Et Bagassi, bonsoir Abraham.
Bonsoir.
Alors on vous écoute.
Ben écoutez, moi je crois que nous avons un cas de jurisprudence que toute l'humanité a vu. C'est celui de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Ce cas a été un cas impulseur des mouvements qui se sont levés. On a vu quelque temps après, en République démocratique du Congo, pays dont je suis originaire, le président Kabila, avec sa majorité, essayer de modifier la constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Il y a eu des centaines de morts, et cela s'est déroulé du 19 au 24 janvier de cette année. Si aujourd'hui nous admettons ou laissons le loisir au président Kourouzizé, avec son administration, de pouvoir allégrement modifier une constitution alors que les partenaires tels que les États-Unis, John Kerry l'a dit encore cette semaine lors de sa visite au Kenya, il a dit que cela était anticonstitutionnel, il est grand temps que l'Afrique puisse montrer à ses enfants, à la jeunesse et au monde qu'elle est assez mature. Nous ne pouvons pas laisser comme cela les hommes qui sont au pouvoir modifier selon leur désir, selon leur convenance, les constitutions, les tailler sur mesure pour demeurer au pouvoir. Je crois qu'il est important, chers messieurs, que tous nous puissions nous mettre ensemble pour dire non, pour faire barrage. Il y aura, je crois, 12 ou 13 élections entre 2015 et 2016. Alors, essayons d'imaginer. Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville essaie de faire la même chose. Je ne sais pas ce qui sera le cas au Rwanda du président Kagame. L'Afrique risque de s'embraser si le cas du Burundi passe. On l'a vu également, les élections tumultueuses au Togo. Chers messieurs, il est grand temps que l'Afrique, après 50 ans de vie, puisse démontrer qu'elle est assez mature. Arrêtons à accorder à ces dictateurs un blanc seing pour qu'ils puissent demeurer au pouvoir alors que leur résultat, alors que leur bilan pour la majorité des cas est négatif. Combien de morts faudra-t-il? Il y a une centaine au Congo, il y en a déjà plus de 3, 4, 5 au Burundi. Combien de morts faudra-t-il? Combien de migrations de peuple? Je crois qu'il est important que nous puissions, nous qui avons accès aux médias.
Voilà. Ibrahim, on a bien reçu votre Abraham, Abraham. Loukwa Bouanga.
Voilà. Alors, et Bagassi, est-ce que la question que les gens se posent, est-ce que le cas burkinabé peut être répliqué ailleurs? Et surtout, quelles sont les spécificités du contexte burkinabé qui ont fait à ce qu'il y ait eu ce changement
Je pense qu'il y a quand même une légère différence avec les autres pays. Au Burkina, par exemple, Compaoré, il a eu droit à son troisième mandat hein, parce qu'il avait fini ses deux premiers mandats. Et avec l'affaire Norbert Zongo, l'assassinat du journaliste, il avait dû modifier la constitution. Et donc, il était en fin de son troisième mandat. Et c'était difficile à justifier pourquoi est-ce qu'il fallait encore remodifier pour une seconde fois la constitution pour lui.
Et faire sauter le verrou de la limitation de mandat.
Et pendant que les années passaient, la société civile s'était tout doucement organisée, non seulement pour cette question de mandat présidentiel, mais aussi pour toutes ces questions judiciaires qui traînaient depuis des années, depuis l'assassinat de Thomas Sankara jusqu'au journaliste et jusqu'au juge constitutionnel récemment. Donc la société civile quand même était assez organisée. On a plusieurs dizaines d'organisations de la société civile qui se sont tous coalisées avec l'opposition notamment qui a finalement pu parler d'une seule voix ces deux, trois dernières années. Et c'est ce qui a pu faire la différence. Et Timothée, on va aborder maintenant la question de la pression internationale. On a vu que John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'est exprimé là-dessus. Il a dit hier depuis le Kenya que ce mandat, ce troisième mandat est contraire à la Constitution. Et voici ce qu'est écrit Al Rich, qui est là, un de nos auditeurs sur Facebook. Où est François Hollande, lui qui, au sommet de la francophonie au Sénégal, avait fustigé de pareils sales comportements de la part des présidents africains? Vous donnez des leçons et pour les matérialiser, vous gardez bouche bée. C'est triste pour la terre et ses habitants car le diable y règne en maître. Et Serge Boukassa Mundele, lui, écrit que où est la francophonie dans tout ça? Et donc les gens ils se demandent pourquoi il n'y a pas assez de soutien, de pression internationale.
Des questions légitimes. Bagassi, on me signale que nous avons au téléphone de Lomé Salomon Gbagba. Bonsoir Salomon.
Oui, bonsoir monsieur.
Voilà, allez-y.
Oui, en fait, l'Afrique, on a assez de problèmes. Quand on a déjà des problèmes, on ne voit pas les Français, les Américains venir nous soutenir. Ça, c'est pas normal. C'est maintenant où on voit que tout est gâté et on les voit à nos têtes. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'un Africain, moi, je ne suis pas d'accord avec les résultats de force. C'est vraiment.
Vous n'êtes pas d'accord avec qui?
Avec les Occidentaux, ce qu'ils nous font.
Oui, vous préférez qu'ils se taisent en ce moment?
Non, mais en fait, mon problème, c'est que quand nous avons des problèmes, c'est à ce moment qu'ils doivent venir. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui passent à Burundi, par exemple. La population n'est pas d'accord pour que le président fasse ses troisième mandat. C'est à ce moment qu'ils doivent venir soutenir cette population qui souffre réellement. C'est pas au moment où on va tuer ces populations qui vont venir maintenant, médecin après la mort, comme on le dit, médecin après la mort vont venir maintenant.
Oui, Salomon, bon, vous parlez de l'Occident qui doit venir appuyer l'Afrique au moment, en temps de besoin. Mais que fait l'Afrique elle-même pour résoudre ces problèmes?
L'Union africaine, par exemple.
Voilà, mais en ce moment, la communauté, les jeunes sont sortis, ils sont motivés, ils sont actuellement dehors pour barrer la route à Inaba pour ne pas briguer un troisième mandat. C'est en ce moment qu'ils doivent venir soutenir cette population. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués pour des opposants qui maltraitent la population.
Merci, merci Salomon. Alors, Bagassi, pour parler des réactions de l'Afrique, bon, c'est clair que l'Union africaine déploie des œuvres, des efforts là-bas au Burundi pour essayer de trouver une solution. Mais ainsi qu'on l'a vu avec le cas du Burkina Faso, chaque fois qu'il y a pareille situation, c'est le silence radio dans tous les autres pays.
Oui, c'est le silence radio, surtout des pays voisins qui ne veulent pas s'attirer l'attention des pouvoirs de leurs voisins. Donc, c'est assez délicat. Et c'est ce que ne comprend pas la jeunesse africaine, pourquoi leurs leaders ne se mettent pas de leur côté. Parce que sur cette question burundaise, c'est surtout les jeunes dans tous les pays d'Afrique qui s'expriment le plus, mais leurs dirigeants ne disent pas mot et on espère que d'ici là, la Commission de l'Union africaine va prendre une position assez ferme et mettre davantage de pression sur le pouvoir burundais. Mais à l'intérieur même, il semble même que Pierre Nkurunziza n'a pas tout le soutien, il ne fait pas l'unanimité au sein même de l'appareil au pouvoir. On a vu la démission du vice-président de la Cour constitutionnelle et au sein du CNDD, FDD aussi, avant la désignation le 25 avril de sa candidature, donc avant sa désignation comme candidat donc, de ce parti, tout le monde semblait ne pas être d'accord. Hein.
Et tout à fait, Bagassi, il y a eu des défections dans la sphère dirigeante du CNDD-FDD et c'est ce qui semble avoir donné du tonus à ce mouvement de contestation du troisième mandat. Le mouvement était jusque-là présent, mais un peu diffus. Mais quand les gens ont vu que même au sein du parti au pouvoir, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec cette démarche du camp présidentiel, c'est ainsi que les adversaires d'un troisième mandat ont retrouvé de l'énergie pour relancer les manifestations de rue.
Voilà, et nous avons un de nos auditeurs à Brazzaville, il s'appelle Destin Leba. Bonsoir Destin.
Oui, bonsoir.
Oui, on vous écoute.
Oui, bon, moi je pense que personnellement, le peuple burundais, face au refus du troisième mandat du président Nkurunziza, c'est bel et bien fondé. Même quand aujourd'hui on nous signale que il y a la fuite du local du président de la Cour constitutionnelle. On se rend compte qu'il y a une pression qui fait que même les gens du pouvoir ne sont pas du tout d'avis de ce troisième mandat. C'est anticonstitutionnel.
D'accord. Merci infiniment et bonne soirée à Brazzaville.
Et précisons, Bagassi, que c'est en fait le vice-président de la Cour
qui s'est réfugié au Rwanda. Alors, on se rend compte, que ce soit Kinshasa, Brazzaville, le Congo, Brazzaville, le Burkina Faso, il n'y a pas longtemps, il y a un certain nombre de pays, même le Rwanda qui est à côté là-bas, qui sont plus ou moins concernés par cette question de troisième mandat, mandat supplémentaire.
Et tout à fait, Bagassi. Et donc, tous ces pays-là observent de très près ce qui se passe au Burundi. Ils essaient de voir comment tout cela va se terminer et quelle va être la position de la communauté internationale par rapport à la situation là-bas. Donc, c'est tous ces pays qui observent, et c'est ce qui explique d'ailleurs, Bagassi, que, comme vous le soulignez, ce silence qu'on note de la part des pays africains.
Alors, on nous signale que 24 000 Burundais ont déjà fui au Rwanda voisin, pays à la composition ethnique similaire. 7 000 autres se sont réfugiés en République démocratique du Congo, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, nous tirons à la fin donc, de cette émission. Peut-être nous allons revenir sur ce sujet dans les jours à venir avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre participation. Au micro, c'était Bagassi Koura et Timothée Donangmaï. Bonne soirée à tous. Thank you.